Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent.
Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans.
C'est pas utilisé par les criminels, ça?
L'impact environnemental est loin d'être négligeable.
Prépare une ICO qui va tout révolutionner.
Ça va jamais marcher, en fait.
21 millions.
Bonjour et bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui vous explique simplement le Bitcoin, les crypto-monnaies et la blockchain. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de ce que la technologie blockchain apporte dans l'immobilier. Je tenais particulièrement à ce sujet, car depuis des années, j'entends monts et merveilles sur ce que la blockchain pourrait prétendument révolutionner dans ce secteur. J'ai entendu qu'elle pourrait enfin faire passer l'illustre cadastre national à l'ère numérique. Certains ont même raconté qu'elle allait rendre obsolète la profession de notaire. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, ça s'est pas vraiment passé comme ça, et nos amis notaires peuvent en témoigner. Au final, on est en train de se rendre compte que ce que la blockchain apporte vraiment dans l'immobilier, c'est un formidable levier de démocratisation de l'investissement. Avec elle, il est désormais beaucoup plus simple d'échanger des titres financiers et donc, fort logiquement, des parts immobilières. Pour nous en parler, je reçois dans cet épisode de 21 millions Bilal El Alami, le cofondateur de la startup Equisafe, dont le fait de gloire est d'avoir réalisé la première vente immobilière sur blockchain en France. Concrètement, Equisafe a créé une représentation numérique d'un hôtel particulier à 6,5 millions d'euros situé en région parisienne. Outre l'amélioration du processus de vente, qu'il nous expliquera en détail, cela permet surtout de diviser l'immeuble en 1 million de petites parts numériques d'une valeur unitaire de 6,5 euros. Ce que ça change, c'est qu'il est désormais techniquement possible d'acheter une part de ce bien exceptionnel pour une somme modique et qu'on peut le faire en quelques clics et avec sa carte bleue. Selon Equisafe, qui a l'ambition de devenir un portail général d'investissement en crypto-immobilier, mais pas que, tout cela va permettre de démocratiser l'investissement et notamment ouvrir au très grand public ce qui n'était jusqu'à présent que destiné qu'à une certaine élite financière. Bonne écoute. Bonjour Bilal El Alami. Bienvenue dans 21 millions.
Bonjour Grégory.
Alors vous êtes le créateur d'Equisafe, une startup qui se présente comme une néobanque d'investissement. Alors est-ce que vous pourriez nous dire en gros en quoi ça consiste? Parce qu'une néobanque comme Revolut ou N26, je vois bien, mais alors une néobanque d'investissement, c'est pas très clair pour moi.
Equisafe est une infrastructure de banque d'investissement qui se traduit à travers notre plateforme d'investissement, qui a pour mission de démocratiser l'investissement et de rendre accessibles des instruments financiers au plus grand nombre. Alors d'où vient ce néo-infrastructure de néo-banque d'investissement? Aujourd'hui, les banques d'investissement permettent de faciliter les transactions. Et donc dans l'aspect, la blockchain permet donc de fluidifier les transactions, et on aura l'occasion d'y revenir au cours du podcast. Et donc voilà, c'était peut-être plus sexy que de dire banque d'investissement 2.0, et on voulait aussi mettre l'accent sur l'infrastructure, parce que nous sommes une société technologique avant.
D'accord. Mais concrètement, on vient vous voir pourquoi? Pour quel type d'opération?
On vient nous voir pour deux types d'opérations. Alors, il y a les émetteurs d'un côté de la plateforme et les investisseurs de l'autre côté de la plateforme. Les émetteurs, ça peut être des sociétés qui ont besoin d'émettre des titres, ça peut être des fonds d'investissement, ça peut être des obligations, donc des types d'instruments financiers, et le sous-jacent peut être immobilier ou pas. Et de l'autre côté, vous avez les investisseurs à qui on va proposer ces titres. Et puis il y a deux jours, on a eu le prix de la start-up la plus innovante sur le processus d'investissement. Et donc c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est vraiment l'usage aux consommateurs.
Je vous ai invité dans 21 millions pour parler principalement d'immobilier et de blockchain. Alors ça tombe bien parce que vous avez piloté la toute première vente immobilière sur blockchain en France en juin dernier. Alors on aimerait donc un peu savoir en quoi ça consiste et comment ça s'est déroulé.
Alors, on a trouvé cet hôtel particulier qui est aussi rue René Jacquin à Boulogne-Billancourt. C'est une magnifique demeure de 700 mètres carrés et le propriétaire voulait s'en séparer. Equisafe est intervenu après une vente classique où un notaire a acté le transfert dans une société qui est devenue donc à prépondérance immobilière, comme on dit dans le jargon. Equisafe est donc intervenu juste après cette vente traditionnelle, où nous, qui travaillons sur les instruments financiers, on a donc dématérialisé les titres financiers de cette société à prépondérance immobilière sur la blockchain pour faciliter les transactions et donc la vente de ces titres. Et donc le process a pris environ 30 minutes de la création des comptes des parties prenantes au paramétrage des titres financiers, à leurs émissions. Et puis le lendemain, dans l'hôtel particulier, on a acté ce qu'on appelle la libération des titres, c'est-à-dire qu'on a acté le fait d'avoir reçu le paiement et donc envoyé les titres aux investisseurs qui ont choisi de jouer le jeu.
D'accord, mais expliquez-nous précisément et simplement en quoi la blockchain permet d'améliorer quelque chose.
D'abord, prenons l'aspect technologique pour que les gens comprennent en quoi il y a une innovation. La blockchain, donc ce registre qui a une dizaine d'années, a trois grandes propriétés que nous, on utilise. La première, c'est l'eurodatage qui a valeur juridique depuis le décret blockchain de décembre dernier. Deuxième, c'est l'immutabilité de l'information. Et troisième, un des plus importants, c'est la programmabilité, et on y reviendra, la programmabilité à travers ces smart contracts, qui sont des programmes informatiques qui vont exécuter des règles de gouvernance. Dans notre cas de figure, sur des titres financiers, on va exécuter les règles de cession de ces titres financiers.
Ça, ce sont surtout des considérations techniques. Moi, je voudrais comprendre ce que la technologie blockchain vous apporte en tant que néobanque d'investissement.
La blockchain permet de gérer de la même manière 10 investisseurs ou 100 000 investisseurs. Et c'est là, en fait, où on peut en venir à l'accessibilité. Aujourd'hui, ce rôle de gestion relation investisseur, comme on dit, c'est chez les institutions, on appelle le back-office, c'est eux qui gèrent l'administratif. Et donc, par exemple, quand il y a un versement de dividendes, c'est eux qui doivent tout calculer et exécuter à la main ces virements. Et là, il y a énormément d'erreurs qui impliquent des amendes du régulateur envers ces sociétés émettrices. Et donc, la blockchain intervient comme un outil qui permet de gérer 10 ou 100 000 investisseurs de la même manière et sans faire d'erreur grâce à ces smart contracts et cette auditabilité que propose la blockchain.
Et donc cette première vente blockchain était une première expérience. Les promoteurs ne vont pas forcément vendre leur token. On a juste vérifié si le processus technologique fonctionnait, c'est bien ça ?
Alors, non, pas forcément.
Ils peuvent vendre leur token, c'est possible.
À la fin de la période des 1 an de restriction, ils pourront vendre leur token s'ils veulent.
Moi, j'aimerais clarifier un point. Il faut savoir que ce ne sont pas des parties du titre de propriété de l'immeuble qui s'échangent sur la blockchain. Ce qui est tokenisé, c'est le capital social de la société à qui appartient l'immeuble. C'est bien ça ?
Exactement. Donc, par instrument financier, on entend les titres financiers qui peuvent être des actions, en effet, donc le titre de capital, ou les titres de créance qui peuvent être de la dette. Et donc, nous, on arrive à dématérialiser sur la blockchain des actions, des parts de fonds, des obligations. On ne peut pas travailler sur le titre de propriété du bien immobilier pour des raisons d'indivision, parce que c'est enregistré dans un autre registre, alors que les instruments financiers sont, pour les actions, dans un registre de mouvement de titres, qui, lui, est fractionnalisable. Pour les parts de fonds, c'est un registre de fonds, et pour les obligations ou les de la dette, c'est des registres obligataires. Et donc on peut travailler sur cela, mais en effet pas sur le titre. C'est pour ça que je précisais société à prépondérance immobilière.
Et moi ça me fait penser à quelque chose, parce qu'au début du développement de la blockchain, certains ont imaginé que cette technologie allait faire disparaître le métier de notaire. Or, on dirait qu'ils se sont trompés parce que vous êtes justement associé avec des notaires dans votre projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les notaires ne se feront pas ubériser par la blockchain ? Désolé pour l'expression, mais elle parle à tout le monde.
Alors, tout à fait. La blockchain, pour moi, ça apporte de l'efficience opérationnelle. C'est-à-dire, et je donne un exemple concret dans l'opération ANA, dans ces 30 minutes, on a Grégoire Delamarche, qui est un des notaires de chez Scrip, qui a certifié sur la blockchain et rattaché lui-même une attestation au registre des hypothèques au token, qui est le titre financier. Et donc chaque détenteur du token va pouvoir vérifier l'authenticité la société dont il détient les titres possède bien cette maison et n'a pas été vendue 2 fois, par exemple. Et donc ça permet dans le futur ça permet au notaire dans le futur de s'émanciper de cette tâche administrative qui était de vérifier dans les registres, et ça prenait du temps, et c'était laborieux. Et donc là, demain, on pourra vérifier que le document est bien authentique grâce à la blockchain en une minute.
D'accord. Donc en fait, oui, on ne va pas remplacer les notaires, on leur apporte une nouvelle brique technologique en fait.
Exactement, on leur permet de s'émanciper de certaines tâches.
C'est très clair. Alors, est-ce que le token que l'investisseur obtient quand il investit permet de bénéficier de tous les revenus annexes dont dispose l'investisseur en immobilier traditionnel ?
Alors, c'est une excellente question. Pour qu'un token soit considéré comme un titre financier, il faut un registre, des droits et des restrictions. Et donc ce registre, on le met sur la blockchain et à travers les restrictions, on va encoder les droits, comme des droits de dividendes, des clauses d'agrément, des droits de préemption, et les restrictions, comme par exemple, ce titre financier ne peut être détenu que par des Européens. Et donc maintenant qu'on sait ça, si vous, investisseur, détenez un token qui représente un titre financier, bah, par extension, les droits sont rattachés à ce titre financier et ils vous donnent droit à des droits de dividendes. Exemple sur ANA. Sur ANA, il y avait...
Donc ANA, c'est le nom de l'immeuble.
ANA, c'est l'opération, de l'hôtel particulier qui a eu lieu le fin juin dernier.
Et d'ailleurs, la vente, c'était 6 millions d'euros, hein, c'est ça ?
6,5 millions, voilà. la transaction. Donc sur ANA, il y avait ce qu'on appelle une période de lock-up, donc une restriction d'un an sur ces titres financiers. Donc les deux détenteurs de ces titres ne peuvent pas les vendre. À la fin de cet un an, cette restriction va s'enlever et vont s'activer les droits de dividendes. Donc dans un an, l'hôtel particulier aura fini d'être rénové. Il y aura un locataire. Ce locataire va verser des revenus à la société et cette société va redistribuer ses revenus à travers les dividendes, comme c'est fait aujourd'hui. Simplement, la différence, c'est qu'on a amélioré l'opération de bout en bout.
Mais qu'est-ce que ça change vraiment pour la personne qui va investir ? Moi, je me mets du côté de l'investisseur. Pourquoi investir via blockchain, c'est plus intéressant par la voie normale ?
Alors, aujourd'hui, la plupart des opportunités d'investissement ont un ticket d'entrée qui est entre 1 000 et 5 000 euros. Sur ANA, le ticket d'entrée était à 6,5 euros. Et c'est ça l'accessibilité. Donc on va permettre... L'idée, c'était de dire tout simplement, on veut que des gens puissent devenir copropriétaires d'un hôtel particulier avec leur carte bleue. Donc il y a cet aspect de démocratisation. Et donc ça amène à d'autres opportunités. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a 15% des Français qui n'ont pas accès au crédit. Mais pourtant, ils ont peut-être de la liquidité. Et ça peut être intéressant pour eux d'investir 10 euros, 50 euros, 100 euros de manière fractionnelle tout au long de leur durée de vie sans avoir à forcément s'endetter auprès de quelqu'un d'autre, même s'ils le peuvent.
D'accord. Et donc vendre aussi des parts immobilières sur blockchain, c'est aussi plus rapide que dans le système précédent, non ? Une vente de token, hop, c'est vite fait.
Alors, en effet, comme la blockchain, c'est du pair à pair, et donc il n'y a pas d'intermédiaire, le temps de transaction est beaucoup plus rapide. Encore une fois, si on reprend ANA, on a fait en une minute, donc acter la libération et l'envoi des titres, on a fait en une minute un process qui prend 2 à 3 jours. Donc en effet, c'est plus rapide. Mais pourquoi ce serait intéressant de fractionnaliser la propriété d'un bien immobilier ? Aujourd'hui, prenons un bien immobilier qui vaut 1 million. Si vous ne trouvez pas d'acheteur, vous allez devoir baisser ce prix. Et donc, vous avez, en quelque sorte, une perte de valeur. Et l'idée, c'est de dire, bah, c'est plus facile de trouver 10 personnes qui vont mettre 100 000 euros qu'une personne qui va mettre 1 million, mais où en réalité, vous allez peut-être la vendre à 800 000.
Est-ce que vous pensez que ça va se démocratiser ?
Je pense que ça va se démocratiser, oui, parce que, prenons un exemple, et on est tous les deux de la même génération. Moi personnellement, je pense qu'on va se rejoindre, moi personnellement je trouve que nos parents ont bénéficié d'une croissance incroyable où ils ont pu devenir propriétaires de leurs biens. C'est beaucoup plus difficile pour nous. Le prix du mètre carré à Paris a récemment dépassé les 10 000 euros du mètre carré. Il y a très peu de gens qui peuvent se permettre ça. Il y a très peu de gens qui peuvent, même encore plus loin, investir après avoir acheté leur résidence principale. Et donc oui, je pense que ça va se démocratiser parce qu'on apporte une meilleure accessibilité à des produits d'investissement qu'on n'avait pas avant, tout simplement.
D'accord. Donc, plus de monde va pouvoir investir dans l'immobilier plus facilement. Mais si l'investissement immobilier se démocratise à ce point, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer une bulle immobilière encore plus importante que celle qu'on observe actuellement dans les grandes villes ?
Alors, la spéculation, elle a toujours existé et elle existera toujours. Après, moi, ma vision, c'est, et encore plus avec l'immobilier, c'est des actifs qui sont faciles à valoriser. Si un prix double en 18 mois, c'est totalement aberrant. Et donc, je pense que ça va limiter cette spéculation. Mais comme je disais, elle a toujours existé. Et donc, si elle s'accrue, d'une certaine manière, on a bien fait notre travail. Mais je pense que ça va s'autoréguler. Ce n'est pas des actions de sociétés qui sont à l'autre bout du monde. On a du mal à visualiser leur valeur, ce qu'elles créent, ou même des sociétés comme Uber qui sont valorisées des milliards alors qu'elles ne font pas encore de bénéfices.
D'accord. Pour l'instant, les ventes qui ont été réalisées via blockchain concernent aussi des biens exceptionnels. Là, on est sur un hôtel particulier à plus de 6 millions. Mmh. Précédemment, il y a eu des chalets de luxe à Aspen aux États-Unis. Alors, on n'est pas encore sur le logement social.
Alors, on n'est pas sur le logement social, mais c'est pas forcément... Alors, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est comme ce qu'on fait est nouveau, ça doit attirer. Et certaines personnes ne sont pas très risque averses. Mais par contre, si on leur propose de pouvoir investir plus facilement dans un hôtel particulier, bah peut-être qu'ils passeront mieux le pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est aussi de dire bah, cette typologie de biens est encore moins accessible au grand public. Hein. Et donc, logement social ou pas, l'important, c'est qu'on va pouvoir demain investir avec sa carte bleue dans n'importe quel actif.
Et est-ce que vous pensez, enfin ça rejoint un peu la question précédente, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire la tokenisation de biens immobiliers quand ça concerne certains biens socialement sensibles, importants, comme les maisons de retraite ou les logements étudiants, les logements sociaux, ce genre de choses ?
Non, au contraire, je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère. Prenons un exemple, c'est des cas d'études que j'aime bien, qu'on appelle le timesharing. Aujourd'hui, on partage déjà notre musique, on partage déjà l'information qu'on lit, on partage les films qu'on regarde. Demain, on va partager nos voitures. Dans cette mouvance, ça ne m'étonnerait pas qu'on partage nos résidences. Et donc, l'idée, c'est qu'en plus de pouvoir partager le timesharing, c'était quoi ? Avant, c'était, par exemple, vous avez 10 hôtels dans 10 régions du monde et vous préachetiez des nuits dans ces hôtels-là. Si vous ne les utilisez pas à la fin de l'année, ils disparaissent, donc vous ne récupérez pas votre crédit. Demain, moi, comment je vois le timesharing, et comme on le voit au sein d'EquiSafe, c'est de dire, bah, en fait, je vais investir dans ce groupe hôtelier, je vais avoir ma quote-part que j'ai investie en droit d'usage dans des nuits, donc imaginons j'ai 10 nuits, si j'utilise que 8 nuits sur les 10, eh ben, les deux autres nuits vont me générer du rendement parce qu'elles vont être louées à quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, je vais amortir dans le temps mon investissement en plus d'avoir accès à l'usage. Et ça, c'est une révolution et j'ai hâte qu'on y arrive.
Et j'imagine que vous n'avez pas manqué ça. À l'étranger, de nouveaux projets dans ce style, hein, sont en train de voir le jour. En Allemagne, par exemple, le groupe Fundament a ouvert le 9 octobre dernier, donc c'était hier, il me semble, une vente publique dans laquelle les investisseurs peuvent investir dans 250 millions d'euros de biens immobiliers tokenisés. Alors, selon leur documentation, c'est même possible d'investir dans ce projet à partir d'un euro. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ?
Je trouve ça intéressant. Je pense que c'est plus symbolique qu'autre chose, comme pour les 6,5 euros. Il y a très peu de gens qui vont, au lieu d'aller boire une bière, acheter un 6,50 euros d'un hôtel particulier. Mais voilà, ça insiste sur ces symboliques de la partie démocratisation. Et je pense que le monde d'aujourd'hui a besoin de plus de démocratisation.
Et sur les ventes immobilières blockchain, on a vu que vous aviez été suivi par des concurrents quelques semaines après. Est-ce que vous êtes sur d'autres projets immobiliers là qui arrivent ?
On est sur, en effet, d'autres projets immobiliers. Et pour les autres concurrents, comme vous les appelez, je pense au contraire que ça n'amène que plus de démocratisation à cet écosystème qui est très naissant. Et voilà, on a besoin de tout le monde et je souhaite le meilleur à tous.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos projets immobiliers ? Quel genre de bien ? Est-ce que c'est toujours des hôtels particuliers ? Est-ce que c'est autre chose ?
Je vous ai donné un indice tout à l'heure. Je vous ai dit 15% des Français n'ont pas accès au crédit. Et donc, début novembre, il va se passer quelque chose à ce propos-là. Et les électeurs de 21 millions seront les premiers avertis quand ce sera officiel. Et je vous le promets. On travaille aussi sur d'autres trophy assets. On appelle ça des trophy assets. Je ne peux pas trop en parler, mais je peux vous dire que quand ça va sortir, ça va être très, très, très sympa.
Ok, et on a parlé beaucoup d'immobilier, mais on imagine que vous allez vous lancer dans d'autres secteurs où il y a actuellement des barrières à l'investissement. Moi, j'aimerais qu'on en sache un peu, en savoir vraiment plus là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez pas nous dire quelque chose ?
Alors, en effet, l'immobilier, déjà, ça va être l'univers dans lequel on va le plus évoluer, parce que c'est l'investissement préféré des Français et des Européens. C'est de la pierre, on disait ça, de la pierre papier, moi j'appelle ça de la pierre token demain, parce que le token, c'est l'évolution du papier. On a d'autres projets sur des œuvres d'art qui vont arriver, on a d'autres projets sur des fonds investissement, immobilier et non immobilier, avec des thèses différentes. En effet, l'idée, c'est d'aller chercher un panel diversifié pour proposer non seulement de l'accessibilité, mais aussi d'une meilleure diversification aux épargnants et aux investisseurs de demain, qu'ils soient, comme j'ai dit, épargnants ou professionnels, institutionnels.
Et si je me mets à la place de l'investisseur qui est intéressé hein, par un des projets que vous avez tokenisé, comment ça se passe ? Je me rends sur votre site, je donne quelques renseignements personnels de KYC et je peux acheter mon token comme ça sur votre site ?
Alors, tout à fait. Pour l'instant, la plateforme n'est pas encore ouverte au public. Elle est en bêta test. On est en train de faire des tests de pénétration de cybersécurité. L'idée, c'est de dire quand elle va sortir, elle va être d'un niveau bancaire en termes de sécurité. Et oui, au niveau du processus, vous allez venir vous créer un compte, comme vous le faites sur Facebook ou sur Instagram, et passer ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer, c'est la connaissance client. Une fois que vous allez devoir uploader votre carte vitale, votre passeport, votre justificatif de domicile, etc. Une fois ce processus finalisé, on va vous créer une identité financière sur la blockchain. Une identité qui est RGPD conforme, bien sûr, et qui va contenir toutes les informations nécessaires à ce qu'on appelle donc ces checks de conformité quand vous allez vouloir acheter ou vendre des titres financiers. Une fois que vous avez passé ça, arrive une autre phase, la phase qu'on appelle le test de risque aversion, qui est demandé par les réglementations européennes. Et une fois cette phase de test de risque aversion et de connaissance client finalisée, vous allez pouvoir accéder à des offres d'investissement.
Et vous serez un portail unique d'investissement, en fait.
On va être amené à devenir un portail unique d'investissement. Y a certains process qui nécessitent quelques agréments qui sont en cours d'obtention pour déployer une plateforme telle qu'on l'entend. Mais on va pouvoir accéder à des opportunités d'investissement, oui.
Et est-ce qu'une entreprise qui veut émettre des security tokens à partir de ces titres financiers peut venir vous voir et vous allez gérer l'opération ?
Alors, on gère différents types d'opérations. On gère la digitalisation de titres financiers existants. On gère la création de nouveaux titres financiers. On gère ce qu'on appelle les opérations sur titres, donc des augmentations de capital. On gère le cycle de vie, donc les versements de dividendes, les droits de vote, les assemblées générales sur la plateforme. Et enfin, on peut faire en effet soit des offres privées, soit des offres publiques. Et dans le cas d'offres publiques, des investisseurs, dits particuliers, pourront accéder et souscrire.
D'accord, ben on comprend bien pourquoi le terme de banque d'investissement digitale.
Exactement. Bien qu'on ne soit pas une banque.
Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de protocole. Vous avez monté l'opération ANA, donc l'opération immobilière, sur Ethereum, mais j'ai entendu que vous étiez mis un peu avec Tezos ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ?
Alors, la blockchain Tezos, pour remettre dans son contexte, elle a été créée par des chercheurs de l'INRIA et 80% des gens qui opèrent dans Tezos, qui travaillent sur le protocole, sont français. Au-delà de ça, il y a un vrai atout technologique à deux niveaux. Le premier, c'est que l'algorithme de consensus sur la blockchain Tezos est différent de celui sur Ethereum ou de Bitcoin. Et donc, en l'occurrence, il propose une meilleure scalabilité. Scalabilité se traduit par le nombre de transactions par seconde qu'on peut faire. Deuxième atout, il y a ce qu'on appelle la vérification formelle. Alors, historiquement, la vérification formelle a été créée par ces chercheurs de l'INRIA qui travaillaient sur le projet Ariane 5. Et quand la fusée Ariane 5 a explosé, quelqu'un avait mal fait son boulot. Et du coup, ces chercheurs ont dit, eh ben, écoutez, il faut qu'on trouve une méthode mathématique pour détecter les bugs. Comme ça, on est sûr qu'il y a un bug ou qu'il n'y a pas de bug. Et donc, ils ont créé un langage de programmation qui s'appelle Michelson, qui permet de faire cette vérification formelle et qui est un énorme atout. Voilà, on se souvient sur la DAO sur Ethereum, les millions d'euros qui ont été volés, il est hors de question que ça se produise demain sur des titres financiers, et la vérification formelle permet de garantir ça. Et donc ces deux raisons nous ont amenés à développer sur Tezos. Au-delà de ça, en tant que société, nous on se présente comme étant agnostique, on propose un usage, donc ce qui se passe dans le bac, j'ai envie de dire, n'est pas important pour le end-user, lui doit simplement avoir un usage qui est une expérience utilisateur, qui soit vraiment pensée, et d'ici février, on sera à la fois sur Ethereum, à la fois sur Tezos, à la fois sur Hyperledger, où on va traduire, en effet, ce qu'on appelle le NIX, le standard NIX, qui est un set de 4 smart contrats, qui ont 4 rôles différents, et qui répliquent l'infrastructure financière d'aujourd'hui, sur la blockchain, pour avoir plus d'efficience opérationnelle.
Super, ben, merci Bilal, merci d'être passé dans 21 millions.
Merci Grégory de m'avoir reçu, au revoir.
Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode qui, j'espère, a été le plus clair possible. Vous le savez, avec 21 millions, j'essaye d'expliquer au plus grand nombre ce que j'estime être une révolution financière et dont les conséquences auront un impact sur la société dans son ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et ça me fait très plaisir. Je vous invite désormais à suivre son compte Twitter, 21 millions au pluriel _, avec lequel nous pourrons interagir pour que vous puissiez suggérer des sujets ou encore approfondir des éléments abordés avec les invités. Comme toujours, je tiens à remercier mon ami Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur Apple et Google Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. À bientôt !